Le son est tellement bon que j'aurais voulu laisser la piste pour aller jusqu'au bout. Bienvenue à tous, Madame L. Je vous souhaite la bienvenue dans votre nouvelle émission Métis et mon couple. Tous les couples sont métis. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense en effet que tous les couples sont métis. J'ai une chanson dans la tête qui est... Le fruit dit fondu, donc ça parlera certainement à ceux qui ont kiffé le R&B dans les années 2000. Ça donne à peu près ça. En moi, aucune différence n'est une barrière. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ceux qui nous jugent n'auront pas le choix. Nous serons plus forts. Donc ça, je pense que c'est la chanson d'une génération. C'est la chanson de ma génération. Et concrètement, ça parle du sujet que je souhaite aborder dans cette émission, le métissage. Le métissage, c'est quoi? Le métissage, c'est deux êtres qui se rencontrent, qui sont issus de cultures différentes. J'aime à dire que tous les couples sont métis, puisque quand tu rentres dans une nouvelle famille, concrètement, tu ne connais pas en fait les règles de la famille et tu vas devoir apprendre. Donc, véritablement, tous les couples sont métis. Maintenant, il y a aussi le métissage à proprement parler, le métissage noir-blanc, blanc-arabe, asiat-noir. Où là, en plus du cercle familial, il y a aussi le regard des autres qui va être sur ton couple. Le regard des autres, ça peut être tes amis, ta famille, mais ce sera aussi la société, la voisine, raciste ou pas, les gens qui vont se poser des questions, qui vont aussi te mettre les bâtons dans les roues pour que ton couple termine. Donc concrètement, voilà, aujourd'hui j'aimerais aborder tous ces sujets-là et aussi apporter ma pierre à l'édifice, puisque moi, ça fait déjà 16 ans que je suis en couple avec mon mari. Alors ouais, 16 ans, j'ai l'impression que c'est un peu un en fait dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où on a des Insta, des Badou, des Tinder, qui sont là pour nous montrer qu'on a de l'offre, ouais, on peut kiffer, on peut se mettre avec une personne, avec une autre, mais concrètement, on a beaucoup de gens en fait qui restent bloqués parce qu'on est aussi dans une société où on montre beaucoup de nos vies et où on est très fake. On est très fake. Mais concrètement, voilà, moi, le matin, j'ai une tête pas du tout instagrammable. Et pourtant, mon mari, il me regarde avec des yeux d'amour, comme si c'était la première fois qu'il me voyait. Parce qu'au-delà de ça, il voit ma personne, il voit tout ce qu'on a pu construire, il voit tout ce qu'on pourra encore construire demain. Il voit la personne que je suis, il voit mon âme avant de voir... peut-être mon visage, et même quand il me regarde, j'ai l'impression qu'il tombe amoureux chaque jour. Et aujourd'hui, vraiment, on a beaucoup de témoignages comme ça de filles qui restent bloquées, qui ont des relations, ou même de garçons, hein, je dis de filles, mais il y a aussi de garçons, qui restent bloqués parce que les codes ont changé. Mais concrètement, c'est pas la société qui doit t'imposer tes codes, c'est toi qui dois t'imposer tes propres codes et qui dois aller de l'avant pour pouvoir mener ton couple comme tu l'entends. Alors ouais, il va falloir gérer ça avec les réseaux sociaux, il va falloir gérer ça avec la société d'aujourd'hui, mais sache que moi, il y a 16 ans, il y a des choses qui ne se faisaient pas et qui se font aujourd'hui. Donc ça, c'est une chance. Il y a aussi des choses qui n'existaient pas et ça, c'est moi une chance. Donc, Métis et mon couple, c'est votre émission, c'est mon émission, mais on est là pour discuter et pour avancer ensemble. Alors, le couple métis, pour toi, c'est quoi? Les obstacles dans un couple métis sont, d'un point de vue général, on va pouvoir dire que c'est la culture de l'autre. La religion, Il y a beaucoup, beaucoup de choses hein, qui rentrent en compte. Alors, dis-moi en commentaire quels sont, toi, les obstacles que tu as pu rencontrer dans ton couple métis. On va commencer par le commencement et j'aimerais vraiment avoir des témoignages sur les rencontres. Comment vous vous êtes rencontrés? Moi, c'était vraiment idyllique. Alors, il y a deux manières de voir les choses, hein. Concrètement, soit tu es in love et tu vois ça de manière hollywoodienne, soit tu es en mode bad side et tu vois ça en mode pff, le gars, il a fait n'importe quoi. Alors, moi, j'ai rencontré mon mari sur le quai d'une gare. Et c'était à une autre époque, donc clairement, on avait des portables, mais on n'était pas le nez sur notre portable H24. Donc bah, déjà, ça nous a permis de nous voir. Et dès qu'on s'est vus, franchement, on s'est kiffé. Donc après, on a discuté ensemble dans le train pendant 2 heures. Voilà, tu connais pas une personne, tu la vois, c'est un coup de foudre, tu parles avec elle pendant 2 heures. Et pour les anciens, on avait en fait le forfait Millennium. Alors ça va paraître complètement lunaire à ceux qui sont plus jeunes, mais concrètement, en fait, c'était un forfait qui permettait d'appeler en illimité à partir de 20 heures. Donc, on a parlé pendant 2 heures et le soir même, on s'est appelé très très tard. Et le lendemain, pareil, le surlendemain, pareil. Et puis après, voilà, on s'est revus. Et aujourd'hui, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. On est mariés, on a des enfants, etc. C'est vraiment un couple rêvé, comme je n'aurais même pas pu en rêver un comme ça. Mais concrètement, en parlant avec mes copines, en parlant avec mes petites sœurs, avec mes petits frères, je me rends compte que vraiment, c'est une rencontre d'un autre temps. Ouais, c'est exactement ça. Donc déjà, la rencontre, c'est vraiment primordial. Parce que on va aussi déjà vers l'inconnu. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de mélange. Et puis, vous partagez aussi, on a aussi des partages de génération, hein, parce que concrètement, on dit le métissage, etc. Mais voilà, moi, mon mari, on avait les mêmes délires, on regardait les mêmes films, on écoutait la même musique. Donc voilà, déjà, il y avait quelque chose qui nous liait. Et je pense aujourd'hui qu'avec justement les réseaux sociaux, vous avez la chance d'être dans des délires générationnels où vous pouvez vous rapprocher d'une communauté en fait qui est faite sur les réseaux sociaux et donc qui vous lie en fait concrètement. Donc ça, c'est vrai que c'est une chance pour par rapport au réseau. Mais voilà, la rencontre, ça en dit beaucoup déjà sur le couple puisque c'est le premier aspect. Il y a des gens qui, eux, ont un archétype. Donc voilà, qui ne sort qu'avec des Noirs, qui ne sort qu'avec des Arabes, qui ne sort qu'avec des Asiates, qu'avec des Laotiennes, voilà. Moi, personnellement, j'ai pas d'archétype, mais j'aimerais bien savoir, en fait, qu'est-ce qui vous pousse à aimer un seul archétype. C'est vraiment pour moi un mystère, mais ça existe et c'est aussi peut-être déclencheur de la rencontre, puisque de toute façon, c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un ou quand on va vers une personne, la première chose qu'on voit, c'est son physique, on ne voit pas son âme. Hein. Quand on voit une fille comme ça, et encore moins quand on voit un boule sur Instagram. Là, non, on ne voit pas du tout son âme, on voit autre chose. Mais voilà, déjà cette rencontre-là, comment ça se passe? Et c'est vrai que les dés sont un peu pipés hein, sur Instagram ou sur Facebook ou sur les réseaux, même sur Snap, hein, parce que concrètement, on montre que le meilleur côté de nous-mêmes. Donc, comment est-ce que vous arrivez aussi? C'est important parce que voilà, si ça se trouve, c'est là-dessus que vous vous êtes rencontrés. Et comment vous arrivez aussi à surmonter après ou à passer aux étapes suivantes? Donc, ça, déjà, c'est quelque chose qui m'intéresse et quelque chose dont on va parler. Voilà, juste pour refaire une petite aparté, moi, c'est vrai, quand j'étais plus jeune, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de garçons que j'ai éconduits parce que je trouvais leur manière de m'aborder totalement inacceptable. Donc, mettez-moi vos commentaires et ça fera l'objet d'une émission, je l'espère. Qu'est-ce qu'on aborde en premier, en fait, quand on est en couple? Parce que c'est vrai que moi, par exemple, mes petites sœurs, je leur dis toujours, mais essaye vraiment de discuter de tout. De tout, 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 tout avec ton copain. Est-ce qu'il va avoir des enfants? Quelle est sa religion? Est-ce que pour lui c'est important la religion? Qu'est-ce qui est primordial pour la personne? Alors c'est vrai, ça c'est un débat hein, continuel. Est-ce qu'on doit parler des choses? Est-ce qu'on ne doit pas en parler? Mais concrètement, quand tu es avec une personne, faut déjà savoir en fait quel est ton but. Est-ce que la fille, c'est une fille comme ça sur le moment? Ou est-ce que tu te mets avec elle pour aller plus loin? Je sais que c'est très compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne disent pas la vérité. Mais concrètement, je pense que c'est important de savoir dans quelle direction on va. Aujourd'hui, on est en 2019. Clairement, les filles, elles font ce qu'elles veulent. Les garçons, ils font ce qu'ils veulent. Si c'est juste comme ça pour s'amuser, bah, amusons-nous. Voilà, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Maintenant, de souvent, voilà, quand on se met ensemble, au départ, on va pas se mentir, c'est pas forcément pour finir avec la personne. Mais il faut quand même connaître la personne, en fait. Parce que ça peut devenir demain ton mari et elle peut devenir demain ta femme. Donc, c'est bon de savoir aussi quelles sont les aspirations des uns et des autres pour, dès le départ, savoir si ça match ou pas. Comme dit Relsan, basique, tu fais pas des enfants avec quelqu'un que tu connais pas. Malheureusement, ça arrive très souvent encore. Et bah, il vaut mieux savoir à quoi s'attendre pour ne pas avoir des surprises sur maintes et maintes plans, voilà, sur beaucoup de choses différentes. Parfois, voilà, on connaît très mal les gens, mais la base, comme encore une fois, je le répète, c'est la communication. Et c'est bien l'enjaillement, hein. C'est bien de s'enjailler, on rigole ensemble, on va en soirée, on s'éclate, ça c'est super, mais il faut aussi savoir aller un petit peu plus au fond des choses. Même dès le début, tu peux le faire en fait. Tu peux avoir une conversation avec la personne qui soit au-delà du superficiel et ça évitera bien des désagréments. Alors, quand on est dans un couple métis, donc faut-il parler de religion? Faut-il parler de la culture de l'autre? Faut-il englober la culture de l'autre? Ça aussi, c'est quelque chose que moi, j'ai du mal à comprendre. C'est vrai que, voilà, quand on a un archétype et qu'on aime un type de personne, on va très souvent vouloir englober la culture de l'autre. Mais clairement, on n'est pas des Antoine Griezmann, hein. Alors je dis ça parce que voilà, ça m'a fait beaucoup rire toutes les choses qui sont dites sur Antoine Griezmann, même si j'aime beaucoup Antoine Griezmann pour son talent footballistique. Mais concrètement, voilà, on n'est pas là pour englober la culture de l'autre. Et de la même manière, on peut aussi se rapprocher de la culture de l'autre sans forcément être jugé. Voilà, ça c'est quelque chose aussi, j'aimerais vraiment aborder. Parce que, par exemple, dans la culture noire, je veux dire la culture noire en globalité, parce que ouais, j'estime que entre les Antilles et les Africains, il y a beaucoup de similitudes. Voilà, et pour moi, j'estime qu'il y a une culture noire. Donc, voilà, quand un noir est avec une fille blanche et que elle-même, par exemple, veut faire des nattes, est-ce que c'est de l'appropriation? Est-ce qu'on doit se choquer de ça? Franchement, moi je vois des choses sur les réseaux, des fois je me sens totalement dépassée. Mais si la fille, elle a envie de faire des nattes, c'est quoi le problème en fait? Alors, ok, mais il y en a qui vont me dire, mais non, mais il faut qu'elle reste elle-même, etc. Jusqu'où doit-on aller? Est-ce qu'on doit englober la culture de l'autre? Est-ce qu'on doit effacer sa culture? Est-ce que le fait de, par exemple, faire des nattes, c'est effacer sa culture? Voilà, donc ça, je pense qu'on va pouvoir en discuter encore et encore. Donnez-moi vos avis, dites-moi si c'est quelque chose qui vous parle. Mais moi, je pense que c'est quand même assez important parce qu'il ne faut pas oublier de rester soi-même. Et comme c'est un sujet important, on en fera une émission. Un sujet quand même aussi très très important, les amalgames et les idées reçues. Là, c'est vraiment en tant que grande sœur que je vous parle. Faites vraiment très très attention à ça, parce que ça, c'est vraiment un poison. Les amalgames et les idées reçues. On peut même aller plus loin, le racisme. Parce que très souvent, nous-mêmes, on a nos propres idées reçues. Alors, c'est facile hein, de dire à l'autre, non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais là, tu racontes n'importe quoi. Mais on n'est pas du tout comme ça. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Voilà, parce qu'on va être face, en fait, à ce que l'autre va nous dire, en fait. Mais concrètement, nous aussi, on a des idées reçues. Nous aussi, on a des amalgames. Et ça, c'est difficile en fait de pouvoir se remettre en question. Mais il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est comme ça que vous allez avancer dans votre couple et c'est comme ça que vous allez être plus fort ensemble. Les préjugés, le racisme, etc. Voilà, on a tous en fait des petites choses comme ça dans nos communautés que nos mamans nous ont dit, que nos frères, nos grands-parents, etc. nous ont dit qui vont va nous conduire à avoir des préjugés et faire des amalgames, ressortir nos idées reçues. Ça, il faut pouvoir le dépasser. Donc après, aussi, j'aimerais bien aborder le thème de la fidélité. Le thème de la fidélité qui est un thème assez important, surtout, encore une fois, je le répète, par rapport au réseau et à tout ce qui peut se passer sur les réseaux. Comment est-ce qu'on arrive à surmonter ça et aller au-delà de toutes les tentations qui sont autour de nous. En plus, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, donc vraiment, je tiens à adresser plein de cœur, plein de bisous à tous nos petits couples et longue vie et surtout, surtout de ne jamais vivre cela, même si on peut vivre, hein, voilà, il y a des obstacles dans un couple. Hein. Est-ce qu'on peut surmonter la fidélité, l'infidélité? Je sais pas. Je sais pas, mais je pense que c'est tout à fait capable. C'est tout à fait possible, pardon, puisque la chose la plus importante dans le couple, c'est l'amour. Et après, franchement, les on dit, ce que vont dire les autres ou quoi, on s'en fout, en fait. C'est pas le sujet, c'est pas le propos. Ce qui est important, c'est nous, notre bien-être, notre couple. Et après, tout le reste, c'est du boucan. Voilà. Donc après, il y a aussi l'étal de l'installation. Ça aussi, au préalable, en fait, avant l'installation, on a pu détecter déjà des choses. Notamment, par exemple, le rôle de la femme et le rôle de l'homme dans les cultures. Mais comment préserver l'harmonie dans le couple? Comment créer le foyer? Comment incorporer des choses de notre culture dans le foyer? Ça, c'est vraiment très important et ce sera le socle pour après passer aux étapes suivantes. Notamment la famille. Alors, la famille, ça peut être une étape qu'on a vue avant, puisque dans la famille, pour moi, il y a la gestion de la belle famille. La belle famille. Donc ça, c'est un sujet très délicat. Très délicat, puisqu'on a déjà dû faire face aux idées reçues de son compagnon ou de sa compagne. Et là, il va falloir faire face aux idées reçues de ta belle famille. Donc c'est vraiment très compliqué. Peut-être même au racisme de ta belle famille. Donc, comment surpasser ça? Est-ce qu'on peut le surmonter? Ça aboutit très souvent à des ruptures, mais il y a des manières de s'en sortir. Est-ce qu'il faut jouer un rôle? Est-ce qu'il faut rester soi-même? Ça aussi, c'est... J'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus. Il y a différentes stratégies. Je sais qu'il y a des gens qui sont très stratèges là-dedans. Il y a différentes stratégies, mais vraiment... ça, c'est des choses qu'il faut, il faut être accompagné. Alors après, je sais que ça peut être un peu délicat parce que il y a des personnes pour qui leur famille passe avant tout. Et quand je dis leur famille, c'est-à-dire que le couple, en fait, c'est pas encore la famille, quoi. Donc, ce que la mère va dire, ce que le père va dire, ce que la sœur, le frère va dire, ça va être plus important que ce que la compagne va dire. Ça, je pense que c'est vraiment une erreur. Aimer ta compagne, accompagner ta compagne ou ton compagnon, c'est pas délaisser ta famille. Bon, ça, on va pouvoir en discuter. Donc, la famille, ça nous amène, bien évidemment, au mariage. Donc ça, le mariage aussi, c'est un sujet assez délicat. Je ne sais pas pourquoi les hommes ont ce problème-là. Enfin, j'ai l'impression que c'est un problème très français, hein, d'avoir ce problème-là avec l'engagement, avec le fait de se marier. Je ne sais pas si dans les autres pays, c'est un problème de la même manière. Mais qu'est-ce qui vous fait peur, en fait, dans le mariage? Alors, moi, en plus, je suis congolaise. Donc, le mariage, c'est en 5000 étapes. Donc, il peut y avoir le mariage coutumier, donc ce qu'on appelle la dot. Clin d'œil à Aya Nakamura, même si elle n'explique pas vraiment dans sa chanson ce qu'est la dot, mais la dot, c'est pas bébé veut un gosse, hein, c'est pas ça. Hein. La dot, c'est vraiment se présenter à la famille. Donc là aussi, on fera peut-être une petite aparté là-dessus. Nous, il y a ça, donc il y a la présentation à la famille. Ça équivaut un petit peu aux fiançailles, mais il peut y avoir aussi en plus des fiançailles. Et puis après, bah voilà, en fonction de la religion, tu peux te marier à l'église, et puis après, tu te maries aussi à la mairie. Donc, ça nous amène au mariage qui va nous amener ensuite aux enfants. Quand on a des enfants, c'est vrai que là, le métissage prend une autre tournure. Puisqu'on veut souvent un petit peu tirer la couverture à soi. On veut que nos enfants... Un enfant, c'est un héritage, clairement. Donc, on veut que nos enfants perpétuent nos cultures différentes. Et là, il faut vraiment être accompagné, je pense. Il faut vraiment prendre du recul. Encore une fois, beaucoup communiquer parce que là, ça peut vraiment être vecteur de séparation. Et c'est dommage quand même de se séparer à ce niveau-là puisque on a quand même fait un enfant avec la personne qu'on aime. Et parce que notre culture prend le dessus, bah, on se sépare. Donc non, ça, les enfants, c'est vraiment un sujet sur lequel on va assez travailler. Mettez-moi vos commentaires sur vos différentes expériences de rupture ou de réussite après la naissance de l'enfant pour pouvoir nourrir cette discussion. Voilà. Donc, je voudrais simplement préciser les choses. Le podcast, en fait, est là vraiment pour échanger, pour partager mon expérience, pour permettre une positivité. Et ce n'est pas une stigmatisation. Donc ici, on ne parlera pas en fait de couple métis noir, blanc, forcément. Le métissage, c'est une globalité. Encore une fois, pour moi, tous les couples sont métis. Je vais aller même plus loin. On peut avoir deux personnes noires qui sont ensemble, qui sont dans un couple métis parce que tout simplement, l'une sera d'origine sénégalaise et l'autre sera afro-américain, par exemple, ou même, si vous voulez, un autre pays africain. C'est des cultures qui sont totalement différentes. Et pour aller encore plus loin, moi par exemple qui suis congolaise, dans la culture congolaise, il y a plusieurs ethnies. Donc on peut être dans un couple métis en étant d'une autre ethnie en fait, complètement. Parce qu'on ne va pas voir les choses de la même manière. Il y a des gens qui sont d'une culture patriarcale, il y a des gens qui sont d'une culture matriarcale. Alors si on a un socle commun, c'est vrai, malgré tout, ça reste quand même un métissage. Voilà. Encore une fois, donc, j'espère que vous serez tous présents. Je voudrais aussi parler d'une petite rubrique qui s'appellerait Pourquoi pas l'assiette? J'aime beaucoup, 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 beaucoup cuisiner. J'aime beaucoup cuisiner pour les autres aussi. Et pour moi, la cuisine, c'est vraiment le premier métissage qui existe. Donc, j'aimerais pouvoir partager avec vous tout ça. Proposer des différentes recettes, alors des recettes traditionnelles hein, dans un premier temps, et puis pourquoi pas customiser ces recettes-là, parce que souvent c'est des recettes qui prennent beaucoup de temps à faire, et pourquoi pas donc customiser ces recettes-là en recettes assez rapides pour pouvoir partager, parce que clairement Angélique du 28 qui essaye de faire un poulet yassa, ça m'intéresse. Ça m'intéresse et je pense qu'elle aussi, Angélique du 28, elle est intéressée de savoir comment on fait un poulet yassa. Donc concrètement, voilà, je pense que c'est important de pouvoir aussi transmettre ce message dans les assiettes parce que bah, déjà, je sais que c'est quelque chose de très important pour beaucoup de personnes. Moi, par exemple, j'ai des cousins qui se sont séparés de leur copine parce qu'elle ne savait pas faire la sauce rouge ou parce qu'elle ne savait pas faire du sakasaka. Bah voilà, moi je suis là pour vous donner un petit coup de pouce, c'est ma passion en plus, j'adore bavarder, ça tombe bien, il y a l'émission et j'aime aussi cuisiner, donc j'essaierai de vous mettre des petites vidéos assez express, assez rapides, pourquoi pas essayer de travailler un petit peu sur le côté healthy des choses. Métis et mon couple, c'est votre émission, merci de m'écouter, Madame L pour vous servir, à très bientôt.